de ce matin. Donc on se retrouve. Un regard.
Oui.
Une réflexion.
Alors, c'est très riche et je, pour l'instant, alors je vais le prendre. Je vais le prendre en prolongeant ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, en fait, j'ai abordé très rapidement ce que j'avais appelé l'englissement du statutaire, du structurel ou pragmatique, c'est-à-dire à ce qui est finalisé par l'action. En fait, on le voit vraiment à l'œuvre dans votre présentation sur et ce que vous avez dit sur la difficulté à faire vivre à l'université des champs de connaissances en actes qui se reconnaissent difficilement dans la définition universitaire des savoirs. Dans le découpage universitaire des savoirs. Ça, en fait, c'est quelque chose de très, très fort. La bonne nouvelle, quand même, c'est que ça a l'air visiblement d'être en train de mûrir, et en tout cas d'être nettement plus mûr qu'il y a 10-15 ans. Voilà, ça avance. La question dans tout ça, c'est de réussir à fixer sans figer. Parce que finalement, dans les métiers que vous décrivez ici, on est face à un problème de fond. Je vais le dire de manière welbeco-bourdieusienne. En fait, vous êtes face à une extension du domaine de la lutte. Je veux dire par là, une extension des situations de travail des agents. C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe, d'ailleurs, pour être bourdieusien, il faudrait dire des luttes, une extension du domaine des luttes. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes face à une irruption de la complexité dans vos métiers. Une irruption violente. Violente parce qu'en fait, tout ce qu'on a mis derrière le mot de transition qui sont arrivés dans les injonctions que vous prenez depuis 15 ans, chaque fois qu'il y a quelque chose derrière le mot de transition, c'est l'injonction en fait, à prendre en compte un nouveau pan de la complexité, c'est-à-dire à faire rentrer de nouveaux objets de travail, de nouveaux outils, de nouveaux enjeux et surtout de nouvelles contradictions dans les contradictions que vous devez résoudre et que les métiers du développement local doivent résoudre. À titre informatif, je suis d'une approche scientifique, j'ai été formé à une approche scientifique où finalement, quand on cherche à analyser un métier et à comprendre ce que font les gens, on regarde quelles contradictions ils ont à résoudre. Parce que finalement, c'est là qu'est la réelle plus-value de l'intelligence humaine. J'ai une bonne nouvelle pour vous, vos métiers seront difficilement remplaçables par des intelligences artificielles ou des machines, vu le nombre de contradictions à résoudre et la vitesse à laquelle le champ de la complexité évolue. Bon, ça, plus sérieusement, ça pose quand même un problème de fond de formation et de professionnalisation, c'est que, du coup, la stabilisation des concepts professionnels devient très difficile. En fait, les concepts professionnels évoluent encore plus vite que les cadres réglementaires, qui pourtant sont atteints d'une évolutionnite galopante. Voilà, donc ça, c'est un peu le défi. Je fais, sur l'évolutionnite galopante, je fais une petite parenthèse. Il ne faut pas sous-estimer le coût cognitif, émotionnel, psychologique, etc. de l'adaptation à un nouveau cadre. Le vrai courage politique dans beaucoup d'organisations serait, en matière de réforme, le vrai courage politique serait de ne pas réformer pendant quelque temps pour laisser le temps aux gens de digérer le cadre dans lequel ils sont. On a besoin, en fait, c'est bête, mais notre cerveau est fait pour fonctionner avec des ensembles stables. On a beaucoup de mal à penser des ensembles non permanents. On a besoin de réfléchir à partir d'ensembles permanents. Donc ça, c'est un vrai défi, c'est qu'en fait, dans vos métiers, il y a une fluidité des objets sur lesquels vous travaillez, parce que l'injonction qui définit le périmètre sur lequel vous devez le prendre en compte change en permanence. Concrètement, en termes d'ingénierie des compétences, en termes d'ingénierie de formation, c'est un défi majeur. Quand on doit monter des formations pour des contextes de ce type-là, ça devient très compliqué parce que précisément, et c'était un peu ce que je retiens de votre intervention, Grégoire, c'est de votre intervention, c'est que la stabilisation de l'assise scientifique, des savoirs scientifiques, c'est assez compliqué parce qu'il faut en permanence les remélanger différemment pour vous réadapter à l'immense variété des questionnements rencontrés par vos élèves et dans leur stage et ailleurs. Donc ça, c'est un vrai défi et je vais y revenir un peu à la fin parce que ça pose une question en fait sur ce qu'on attribue comme fonction à la formation et en particulier ce sur quoi on va lui demander de produire un effet en termes de compétences. Si je reprends le fil de... voilà, donc extension des situations, ça c'est dit. En fait, la grosse difficulté, lié à ça, c'est qu'en fait, dans beaucoup de cas, apprendre, c'est désapprendre. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas pour combler un vide, on apprend en contradiction avec ce qu'on croyait savoir avant. Ce n'est pas une idée absolument évidente, mais en fait, on n'apprend jamais, on n'est jamais une ardoise vide, et en particulier sur tout ce qui touche ici vos questions d'accompagnement professionnel et de formation, on est sur des choses où personne ne part d'une page blanche. Et la vraie difficulté, en fait, ça n'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est dans ce contexte où tout est fluide et bouge assez vite et où les concepts ont à peine le temps, la peinture a à peine le temps de sécher sur le concept qu'il faut déjà refaire l'enduit, c'est vraiment difficile. C'est-à-dire que la principale difficulté est de remettre en cause ce qu'on croyait savoir. En fait, c'est pas anodin. Je veux dire, quand on conçoit des formations, quand il faut prévoir un gros sas au début pour déconstruire les représentations, c'est très compliqué. Je vais en donner un exemple. Il y a deux conséquences à ce que je viens de dire. Première conséquence qui explique pourquoi, en effet, les stagiaires, c'est très pratique pour tester des trucs dont on ne sait pas si on va les pérenniser. Le stagiaire a deux propriétés. On sait qu'il part dans pas longtemps. Non, pardon, il en a une troisième, mais bon, il n'est pas cher, mais ça, tout le monde le sait. Donc, il a deux propriétés. On sait qu'il part dans pas longtemps. Et la deuxième propriété, c'est que c'est très facile de lui dire de se taire. Donc, du coup, c'est très pratique, en effet, les stagiaires pour les fonctions exploratoires, pour l'innovation. C'est complètement fou le nombre d'innovations qui reposent sur des stagiaires en France ou ailleurs. Voilà. Et c'est très important parce qu'en fait, ça matérialise quelque chose, c'est que derrière, il y a besoin de garder du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, quand je disais tout à l'heure fixer sans figer, le problème général, c'est un problème général qui est sous-jacent, à mon avis, à vos travaux, c'est qu'il y a une question d'institutionnalisation, c'est-à-dire de la manière dont on fait rentrer une réflexion en mouvement sur quelque chose, sur des phénomènes qui bougent et que vous essayez de suivre, comment est-ce que vous pouvez le rentrer dans les fonctionnements normaux et habituels des institutions. Et ça doit être fait, c'est à la fois nécessaire, juste par exemple pour introduire une culture de la transversalité dans certaines organisations qui en ont vraiment besoin pour accompagner ou créer du développement territorial. Mais le problème, c'est quand on institutionnalise trop, on enferme l'avenir. Ça a été plus ou moins dit ce matin par M. Vibert à propos de sa fiche de poste. Je trouve que la réflexion était très intéressante. Après, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas demander à tout le monde de fonctionner avec ce niveau de flou et de souplesse. C'est pas possible. Enfin, concrètement, c'est pas possible. Donc, voilà. Donc, il y a quelque chose d'important à ce niveau-là. Là, donc, ça, c'était la première conséquence. C'était donc... Attendez, pardon. Excusez-moi, j'ai perdu mon fil. Vous m'autorisez quelques secondes pour... Donc, j'avais dit que c'était... Ah oui. Et la deuxième conséquence, là, de ce que je disais avant, là, sur... sur la difficulté en fait à fixer et à institutionnaliser sans figer. Je vais la prendre sur un sujet presque pas sensible, la coopération interinstitutionnelle, interinstitution, qui à mon avis est un des énormes défis que posé depuis à peu près, je sais pas, 15 ans, 20 ans qu'elle est identifiée, et où toutes les raisons sont là. Je vais reprendre les termes aussi de ce matin de Monsieur Chassagne. Tout nous pousse à ne pas coopérer. Je ne sais pas vous, mais moi, d'entendre cette phrase-là dite publiquement m'a fait un bien fou, parce qu'en fait, il y a un espèce d'angélisme béat autour de du partenariat. Vous avez tous compris que le partenariat, c'est bien. Donc, tout le monde doit être partenaire. Eh ben, c'est bête, mais en termes de formation et d'accompagnement du développement professionnel, cette idée-là est l'idée la plus incapacitante qui existe en matière de coopération. Ben non, en fait... La coopération, c'est pas facile, parce que coopérer, c'est perdre une partie de son autonomie, c'est-à-dire la capacité à déterminer soi-même les règles par lesquelles on fonctionne. Donc coopérer, c'est accepter de déterminer ses propres règles de fonctionnement en fonction de la compréhension qu'on a du fonctionnement d'un autre, et en fonction de la compréhension de notre fonctionnement qu'à l'autre. Si vous voulez, je peux la répéter, hein, parce que c'était... Voilà. Et donc ça, c'est absolument crucial, parce que ça veut dire que coopérer, en fait, c'est perdre de l'autonomie. Au nom... d'une finalité, d'un objectif plus large. Ça va au niveau timing ? Encore 2 minutes et je m'arrête. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument crucial, particulièrement quand vous cherchez à monter des co-formations entre des gens d'institutions différentes dont le but est de les pousser à coopérer. Vous vous retrouvez face à cette première difficulté qui est qu'il faut que les institutions entérinent que si elles vont jusqu'au bout de leur logique de dire que l'efficacité pragmatique de notre action participant à une finalité d'action publique plus grande réclame qu'on accepte de céder une part de notre liberté à un collectif dans lequel interviennent d'autres gens avec qui on a plutôt l'habitude de raisonner en termes de définition de plate-bande, ça devient un vrai défi. Et je veux dire, il ne faut pas sous-estimer la difficulté pour les institutions à faire face à une injonction comme ça. Concrètement, pour monter une formation coopérative entre État et collectivités locales, il faut faire face à tout un ensemble de bâtons dans les roues réglementaires sur les modes de financement de la formation, sur les plans de formation, sur la possibilité de, ah oui, parce que si vous allez apprendre à vraiment coopérer avec votre homologue des collectivités locales, ça c'est le point de vue État, ou alors si vous allez vraiment apprendre à coopérer avec votre homologue de l'État du point de vue collectivité locale, il y a un moment où vous risquez d'être tellement proches l'un et l'autre sur vos fonctions transversales que vous vous éloignerez finalement de nos préoccupations thématiques institutionnelles. C'est un danger réel du point de vue de l'institution, même si c'est là une des conditions de son efficacité. Donc ça, en fait, c'est sous-jacent à la création de formations dans ce domaine-là. Le deuxième problème est beaucoup plus basique autour de ces questions de coopération, et il illustre et il boucle la boucle, et je vais m'arrêter là-dessus. C'est qu'à mon avis, à l'heure actuelle, il n'y a pas, ou il y a très peu, à part quelquefois au niveau micro-local, de doctrine commune. En fait, une doctrine, c'est pas sale, hein. C'est quelque chose de très bien, c'est un ensemble de discours sur lequel on est d'accord, qui pose des repères, qui fixe des repères. Donc il n'y a pas de doctrine commune de la coopération entre institutions dans la plupart des institutions que j'ai pu croiser au cours de ma vie professionnelle. Concrètement, je ne l'ai pas trouvé au niveau de l'État, je ne l'ai pas trouvé au niveau des collectivités locales avec lesquelles j'ai travaillé, je ne l'ai pas trouvé avec les agences avec lesquelles j'ai travaillé. En fait, chacun bricole. Et le problème, c'est qu'il s'ensuit une espèce de discours passe-partout et lisse sur le partenariat, qui est très bien pour servir à la fin d'un colloque, mais qui ne permet pas d'agir, et qui aboutit à un problème. Vous avez beaucoup parlé de réflexivité. Ouais, mais quand on a une idée comme le partenariat, c'est bien, que personne ne peut remettre en cause, eh ben, y a plein d'expériences de partenariats ratés qu'on n'a pas la possibilité de redigérer. Donc, quelquefois, une idée comme ça, qui a l'air consensuelle et facilitante, empêche le développement professionnel. Et moi, j'ai assisté à des gens auxquels on disait « Non, non, mais coopérer, en fait, c'est vraiment compliqué, non ? C'est vraiment plus compliqué que de travailler seul. » Et qui, d'un coup, se retrouvaient, en ouvrant cette possibilité-là, d'un coup, ils disaient « Ah, mais c'est pour ça que ça n'a pas marché quand j'ai monté tel projet. » En fait, ça datait de 5 ans plus tôt, et depuis 5 ans, il était bloqué par cette idée, et il ne pouvait pas digérer sa propre expérience. Donc c'est typiquement une des limites de la réflexivité, c'est ça, c'est que quelquefois il y a des points de théorie professionnelle ou de discours partagé qui empêchent de réfléchir réellement sur les faits, qui empêchent de se rapprocher des faits pour en tirer quelque chose. Bon, et après il y a d'autres limites à la réflexivité, qui ont été pas mal évoquées, c'est on ne peut pas faire reposer une injonction de développement professionnel uniquement sur l'acteur. Il y a une grande partie de la compétence qui dépend de son environnement, à la fois de son environnement institutionnel. Ça a été évoqué tout à l'heure, l'idée de compétence distribuée, c'est ça. C'est qu'une partie de la compétence d'une personne repose sur les outils qu'il a. Typiquement, la compétence d'un conducteur de train est nettement moins palpable quand il n'y a pas de train. Non mais rigolez pas, parce que c'est tout à fait applicable à la compétence de gestion ou la compétence de planification d'un projet. Quand vous avez pas, quand l'ordinateur est en panne, ça marche moins bien. Donc ça c'est la première limite. La deuxième limite, c'est qu'en fait il s'agit là d'actions collectives, toujours d'actions collectives. Personne n'agit individuellement dans vos métiers. Et donc typiquement la réflexivité doit aussi être collective pour que... Alors je ne sais plus qui a dit ça ce matin, je n'ai pas eu le temps de noter le nom, mais ça marche parce qu'on apprend tous ensemble. Voilà. J'ai retenu ça ce matin, et je trouve que c'est important. Et c'est le « parce qu'on apprend tous ensemble ». On est en train d'apprendre tous ensemble.
Voilà. Merci.
Maximum 17 heures.